Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Que ce matin, nous allons ensemble laisser le Seigneur nous parler, et c'est la lecture que nous allons faire, d'abord ensemble, pour être vraiment pénétrés des pensées du Seigneur. Nous allons lire ensemble ici le sermon sur la montagne. Ça fait 3 chapitres. Vous allez dire, oh, ça sera long. Non. Il faut que nous apprenions à lire la parole et à écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, j'ai accepté ce que le Seigneur m'ordonnait. Et c'est vrai que vous n'êtes pas ici pour un homme. Vous êtes ici pour le Seigneur. Et alors, ce n'est pas le commentaire d'un homme, d'abord, qui va commenter la parole du Seigneur. C'est mieux que vous l'entendiez et que je l'entende encore une fois avec vous. Parce que si je vous dis « allez-y » et puis « faites la lecture », je ne suis pas sûr qu'elle sera faite. Tandis qu'ici, je sais que nous la ferons. Alors, vous ouvrez vos Bibles au chapitre 5. Vous avez les notes à la page 4, n'est-ce pas? Matthieu, chapitre 5 à 7. Et comme vous avez dit que vous aviez la Bible second, quoique le caractère est plus petit, je lirai quand même dans second plutôt que dans la Bible de la Colombe. Mais nous allons d'abord prier. Dieu notre Père, nous voudrions ce matin être avec toi sur la montagne où tu t'es assis pour enseigner tes disciples. Et nous voudrions recevoir cet enseignement. Tu recevais des disciples que tu avais appelés et que tu voulais former toi-même. Tu ne laissais pas des hommes former des serviteurs. C'était toi qui les formais à ton école. Et c'est ce que nous désirons, être formés par toi. Et quand nous parlons d'un maître, nous ne voulons pas prononcer le nom d'un homme, mais nous voulons dire notre maître, c'est Jésus. Nous avons été à son école et nous avons appris quelles étaient ses pensées. Nous savons bien que dans ces chapitres ont été réunis par le Saint-Esprit et par l'évangéliste Matthieu des paroles que Jésus n'a pas seulement dites sur la montagne dans ce sermon, mais qu'il a dites à plusieurs endroits et à plusieurs reprises au cours de son ministère, comme nous allons le prouver. Que ta grâce soit avec nous et que ce soit comme une lecture toute nouvelle et qu'imprégnée de tes pensées, notre vie sur la terre corresponde à ce que nous dit ta parole. Pour la gloire du Père, en ton nom, ô Fils bien-aimé, et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui sera notre force, notre énergie et notre consolateur. Merci de nous parler d'un autre consolateur. Tu restes le consolateur céleste, mais tu as envoyé pour ton absence sur la terre le Saint-Esprit de la part du Père et de ta part pour nous enseigner. Alors donne-nous d'être à l'écoute de ce que ton Esprit veut dire à nos cœurs. Pour ta seule gloire. Amen. Vous pouvez déjà noter sur vos feuilles les textes qui vous arrêtent plus particulièrement. Nous avons donc, tout d'abord, dans ce chapitre 5, et vous allez retrouver ce que nous avons ébauché hier soir. C'est quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qui a été dit hier soir? Que nos épreuves, le Seigneur les employait pour nous bénir, pour nous enrichir. Est-ce que vous étiez d'accord? Que non seulement il nous a sauvés, mais il nous a donné la paix, mais il veut nous enseigner. Et pour nous enseigner, comme Jésus lui-même en tant qu'homme a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, il permet des souffrances. Et avoir des souffrances, ce n'est pas manquer de bonheur. C'est cela que nous devons admettre. Est-ce que Jésus a eu des souffrances? Oui. Mais est-ce qu'il a manqué de bonheur? Il était dans le bonheur de qui? De son Père. Alors, nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. De sorte que cela, nous devons l'accepter. Nous devons accepter le chemin par lequel le Seigneur trouve bon de nous faire passer. Car lui ne se trompe pas. Et il est plus ambitieux pour nous que nous ne le sommes nous-mêmes. Alors, nous commençons par les béatitudes. Et vous serez frappés de voir qui sont ceux que le Seigneur nomme bienheureux. C'est peut-être pas ce que vous aviez choisi, mais lui dit que sont bienheureux. Quand il a vu la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et nous espérons que ce matin, vous vous approchez de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres !» C'est ce que vous admettez? Ça, c'est Jésus qui le dit. Lui, il trouve « Heureux les pauvres en esprit !» Ce n'est pas les imbéciles. C'est ceux qui ne veulent pas raisonner sur tout, mais qui acceptent la parole de Dieu comme un enfant l'accepte, avec la simplicité d'un enfant. Ils ne vont pas raisonner profondément sur certaines questions, puisque le Seigneur dit qu'on est heureux quand on est pauvre en esprit, on l'admet. Car le royaume des cieux est à eux. Il avait annoncé le royaume des cieux. Il avait dit, à la suite de Jean, que ce royaume s'était approché. Pourquoi le royaume s'était approché? Parce que le roi était enfin là. Le roi qui avait été promis pendant des siècles se trouvait là. Il y a eu un jour où Jésus a été manifesté, est venu, et Dieu, à son baptême, a proclamé que c'était son Fils bien-aimé en qui lui mettait tout son plaisir. Jésus était dans l'eau du baptême, le ciel s'est ouvert, la voix du Père a retenti, alors le royaume s'était approché. Mais ce que Jésus a voulu montrer, c'est que pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait d'abord Israël, que les gens d'Israël se repentent. Et aujourd'hui, si nous voulons entrer vraiment dans le royaume des cieux, il faut passer par la repentance. Et je pose la question, est-ce que vous avez connu la vraie repentance? Je vous ai dit hier après-midi, ou hier soir, que nous devons demander à Dieu que nos affections, les affections de nos cœurs, lui appartiennent. Et voyez-vous, ces affections, elles naissent à la suite, souvent, d'une profonde repentance. On ne se trompe jamais quand on demande à Dieu, « Montre-moi ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie. » Et quand on se repent, le Seigneur éclaire notre route. Voyant la foule, donc Jésus leur parle. Ayant ouvert la bouche, il leur dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés. Voilà de nouveau comment le Seigneur voit les choses. Vous êtes affligés. Oh, pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Et on commence à douter de son amour et on commence à douter de sa puissance. Mais comment, si Dieu est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il permet cela? Bien, vous êtes à côté de la plaque. Heureux les affligés, vous devez reprendre les termes du Seigneur et en vivre. Quand vous êtes affligés, vous n'êtes pas nécessairement malheureux. Si vous êtes avec Jésus, vous vous dites, bien, comment vas-tu t'y prendre pour me sortir de là? Et voyez-vous, quand vous avez toujours le Seigneur avec vous, eh bien, vous le voyez agir. Heureux les affligés, ils seront consolés. Pour connaître une vraie consolation, on ne l'a que dans l'affliction. C'est par l'affliction qu'on apprend la consolation. Les gens qui ne sont pas consolés, ils n'ont pas d'affliction. Alors, ils agissent, mais ils n'avancent pas dans la vie du Seigneur. Troisièmement, heureux les débonnaires. Les débonnaires, c'est les gens qui n'insistent pas sur leurs droits. Or, vous me direz, mais enfin, j'ai ces droits. Oui, mais le Seigneur n'a jamais insisté sur ses droits. Et il a reconnu le droit des autres. Quand Pilate lui a dit, mais tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te libérer, comme aussi de le condamner. Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut, du Père. Donc vous voyez, il était constamment en communion avec son Père. Et les paroles qu'il disait, c'était des paroles, comme il l'a dit lui-même, qu'il avait entendues par le Père. Il dit, je ne dis rien que je n'ai entendu par le Père. Et ses actes, il disait, je ne fais rien que je n'ai vu faire par mon Père. Une dépendance totale. Et c'est ça qui nous manque. Une dépendance complète. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Oui. Le jour où le Seigneur règnera, alors il faut savoir se confier en lui. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et il y a une multitude de personnes dans ce monde qui ont faim et soif de justice. La justice ne règne pas sur la terre, quel que soit le parti qui domine dans ce monde, la justice ne règne pas. Eh bien, un jour, nous savons que nous serons rassasiés. Et en attendant, le Seigneur ne nous laisse pas mourir. Ils seront rassasiés. Nous avons une espérance glorieuse. Mais vous voyez comme l'espérance et la foi sont toujours dans ce même amour dont nous allons nous occuper. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous devons reconnaître que nous sommes au fond quoi? La miséricorde, elle est pour qui? Pour des misérables. Quand vous vous reconnaissez misérable, et vous savez, ça peut être quotidien, ça. Je reconnais que je suis misérable. Eh bien, la miséricorde de Dieu s'avance vers moi. Dieu ne résiste qu'aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il faut vivre ces béatitudes pour connaître la vraie miséricorde. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, ce n'est pas des gens qui ne pêchent plus, nécessairement.
mais c'est des personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur et qui veulent uniquement vivre pour lui. C'est un cœur qui n'est pas partagé. Le cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas partagé. Et quelles que soient les circonstances, c'est à Dieu que nous allons. Alors, ceux qui ont le cœur pur, qu'est-ce qu'ils voient? Ils verront Dieu. Et voyez-vous, quand on voit le Seigneur intérieurement, eh bien, on est fortifié, on est encouragé. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous voyez quelle ressemblance qui est en train de se faire. Ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que quand on voit notre vie, ceux qui vous entourent peuvent dire, ils sont d'en haut, ils ne sont pas de ce monde, ces gens-là. C'est cela qu'on devrait pouvoir dire. Il devrait y avoir un tel contraste. Et puis maintenant, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Eh bien, si même nous devons souffrir, et vous savez, ça peut venir d'un jour à l'autre, l'islam monte à grands pas, et vous connaissez les méthodes de l'islam aussi, hein. Ça égorge facilement. Mais est-ce que nous resterons fidèles? Nous aurons l'occasion de délivrance. Le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous quand on vous outragera. L'autre jour, en sortant d'une réunion, j'ai salué une dame. J'ai dit, comment allez-vous? Oh, ça va mal. J'étais blessé par une sœur. Quelle jeune figure. Alors, j'étais blessé par une sœur. Alors, j'ai dit, ben, pardonnez-lui. Mais où est-ce que nous vivons notre christianisme? Dans les nuages? Entre le ciel et la terre? J'étais blessé. Vous rendez-vous compte? On est à côté et on voudrait des grandes choses, on voudrait que tout change. C'est notre cœur qui doit changer et qui doit appartenir au Seigneur. Heureux serez-vous quand on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Oh, me réjouir parce qu'on dit du mal de moi? Mais si c'est faux, qu'est-ce qu'on a dit du Seigneur? Est-ce que c'était juste ce qu'on disait du Seigneur? Non. Mais quelle a été sa manière? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, eh bien, montrez que vous savez ce que vous faites. Pardonnez. Car si vous ne pardonnez pas, ne vous attendez pas à être exaucé. On est exaucé quand on a su pardonner. Et demandez au Seigneur qu'il vous donne cet esprit de pardon. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Alors, vous voyez, la personne dont je vous parle, elle n'avait pas l'air d'être dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ce sont des textes qui doivent être écrits en nous. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, vous prenez par exemple le chapitre 11 des Hébreux, et vous retrouvez tout ce que la foi a pu manifester au sein de diverses épreuves. Voilà donc l'enseignement du Seigneur dans les béatitudes. Et vous les avez comptées, ces béatitudes? Il y en a 8. Hein. Alors nous allons maintenant plus loin, où le Seigneur, dans un deuxième paragraphe, nous parle de ce que nous sommes. Et nous devons prendre conscience que c'est lui qui le dit. Qu'est-ce que nous sommes sur la terre? Et pourquoi sommes-nous laissés sur la terre après notre conversion? Vous êtes, c'est lui qui le dit, hein, le sel de la terre. Alors, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait avec le sel? Le sel conserve les aliments, hein, et puis vous pouvez méditer là-dessus. Vous êtes le sel de la terre. Il donne le goût des choses de Dieu. C'est ça que nous devons être. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que notre vie donne le goût des choses de Dieu? Mais si le sel a perdu sa saveur, si les gens dits chrétiens, qui disent être disciples du Christ, n'ont plus de saveur, si on ne les entend que se plaindre, que raconter leurs difficultés, ben avec quoi la lui rendra-t-on, cette saveur? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, et c'est bien ce qui est arrivé. Les gens ne veulent plus croire quand ils regardent comment vivent plusieurs chrétiens. Et alors, évidemment, si vous avez un mari inconverti, qui est-ce qui peut lui montrer en premier lieu la valeur du christianisme? C'est certainement son épouse. Mais alors, il faut qu'on accepte la souffrance. Mais pour ceux qui ne sont pas encore mariés, nous vous dirons tout de suite, épousez un enfant de Dieu. Ne pensez pas, je me marie à tout prix, et puis vous n'épousez pas quelqu'un qui est au Seigneur. Ce serait la première chose. Mais si vous l'avez fait, eh bien, souvenez-vous que Dieu, malgré votre désobéissance, malgré la bénédiction que le prêtre vous a donnée, ou le pasteur, puis ça n'a pas été béni, eh bien, le Seigneur vous aime. Et il veut vous faire miséricorde. Et pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons mis, hier soir, nous avons lu plusieurs textes depuis le commencement, les premières pages de la Bible, jusqu'à l'Apocalypse. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on ajoute à la fin de la page 2, Apocalypse 1, verset 5, à celui qui nous aime. Malgré toutes nos faiblesses, nos désobéissances, il est celui qui nous aime. Apocalypse 1, verset 5. Et alors, verset 14. Qu'est-ce que nous sommes encore? Non seulement le sel, mais vous êtes la lumière du monde. Et avant d'être la lumière du monde, il faut que nous demandions au Seigneur que nous soyons la lumière dans notre foyer. Vous êtes la lumière du monde, mais dans notre foyer d'abord. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, il y a une promesse que vous saisissez là. Si vous êtes la lumière, vous dites au Seigneur, permets que j'éclaire ma maison. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas par vous-même. Alors, que vous faut-il? La personne du Christ. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Vous pouvez apporter cette espérance de la gloire dans votre foyer. Que votre lumière, verset 16, luise ainsi devant les hommes. Et qui sont les hommes d'abord? Ben c'est son mari, ce sont nos enfants, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Il n'est pas dit afin qu'ils entendent vos récriminations, afin qu'ils voient, il y a quelque chose à montrer, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Eux, ils ne le voient pas, ce Père qui est dans les cieux, mais vous, vous le voyez. Et vous, vous comptez sur votre Père céleste. Et vous vous y abandonnez. On continue. Où nous voyons la relation de Christ avec la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais vraiment pour l'accomplir. Et il y a trop de personnes qui disent « on n'est plus sous la loi, alors bon ». Mais regardez quel enseignement le Seigneur vous donne. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne dites pas, oh mais ça, c'est plus pour nous. Alors vous avez une très petite Bible quand vous dites que c'est plus pour vous. Vous n'êtes plus sous la loi, mais la loi reste l'expression de la pensée de Dieu. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et il a vraiment en lui, vous voyez que tout a été accompli. Pas seulement dans ce qu'il a dit sur la croix, mais dans toute sa vie, il accomplissait la volonté de Dieu. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, on change les lois même. On admet des choses que la Bible condamne absolument. Et on dit, mais on doit vivre avec son temps. Est-ce que c'est ça votre théorie? Vous devez vivre avec votre temps? Vous devez vivre dans ce temps avec qui? Avec Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça, ce sont des choses qui sont ancrées en vos cœurs. Car verset 19, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, hein, » parce que c'est ça qu'on enseigne de plus en plus, hein, « on enseigne à faire autrement. » Eh bien, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, mais ça coûte quelquefois, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est quelque chose, hein? Regardez ce qu'un pharisien observait en voulant se justifier. Mais il n'est pas dit, on ne doit pas l'observer. Ils disent, mais ne font pas. Mais il faut que ce soit du cœur. Alors, verset 21. Nous avons là, à partir de ce verset, encore quelques enseignements. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, c'est l'Ancien Testament, hein, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Puis qu'est-ce qu'il ajoute? C'est là une des questions que je vous pose. Quand vous serez dans vos chambres, comment comprenez-vous les différents, mais moi, je vous dis. Est-ce que Jésus se met en contradiction avec l'enseignement passé des prophètes? Non, il le développe seulement. Si simplement devant la loi, vous êtes tranquille, le Seigneur vous montre qu'il va plus loin que ce que dit la loi. J'ai pas tué, je suis pas un criminel. Oui, mais est-ce que tu as aimé? Ou bien est-ce que tu détestes quelqu'un? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. C'est possible qu'on se mette en colère contre son frère, mais est-ce qu'on reste dans cette colère? On s'en humilie. Et on lui demande pardon. Que celui qui dira à son frère « raka », c'est-à-dire « fou », mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la gêne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, donc quand vous allez rendre culte, vous devez être dans une certaine préparation, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas au moment où vous êtes rassemblés dans votre église ou dans votre salle que vous devez vous souvenir que ton frère a quelque chose contre toi. C'est avant. C'est avant d'aller au culte. Parce que quand on va au culte, comme on en parlait avec un frère, on n'y va pas pour raconter des histoires ou des expériences, mais pour adorer, pour nous prosterner devant Dieu, pour lui dire « Tu as raison en tout, et je te l'avoue, je t'adore pour toutes tes dispensations. Laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Faut pas prendre Dieu pour n'importe quel bonhomme. » J'ai entendu Messadier, là, l'auteur des livres sur l'homme qui devint Dieu, et puis sur Moïse, qu'il écrit des romans sur Moïse. Et puis, la journaliste lui demandait, mais au fond pour vous, qui est Dieu? Il n'a pas pu répondre. Il a dit, en tout cas, je pense que ce n'est pas un vieillard. Mais il n'a pas pu dire que Dieu était un père. Et puis on peut être un père et être jeune encore. Hein. C'est terrible. Mais on voit très bien que ces hommes qui prétendent enseigner, ils ne sont pas en relation avec Dieu, ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas passé par la nouvelle naissance. Parce que pour pouvoir comprendre l'Écriture, il faut être né de nouveau. Verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé ton dernier cadran. Alors, nous passons plus loin. Donc, l'exhortation que nous avons ici, c'est de s'accorder promptement avec notre adversaire, ou celui qui pense être notre adversaire. Verset 27. On continue les enseignements. Vous avez appris qu'il a été dit. Donc, le Seigneur ne nie pas ce qui a été enseigné. Mais il va beaucoup plus loin. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis... Alors, on dit, oh, mais on n'a pas commis d'adultère, mais ce sont de moins en moins nombreux ceux qui n'ont pas commis d'adultère. C'est triste. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Vous n'allez pas faire ça, hein? Littéralement. Mais vous comprenez que c'est une question spirituelle. Il y a des choses que vous ne devriez pas lire. Parce que quand vous lisez certaines choses, ça vous met toutes sortes de pensées dans le cœur, et l'occasion ne va pas manquer de vous faire tomber. Donc, il y a des choses dont nous nous séparons, parce que nous savons très bien quelle est notre faiblesse. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. On a eu pendant des semaines toute cette histoire de l'homme le plus puissant du monde qui s'est laissé aller à des choses bien regrettables, et vous avez vu ce qui arrive dans sa propre famille. Même si son frère maintenant vient le consoler, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Or, maintenant, n'est-ce pas, c'est la grande mode, et même dans les églises, on admet tout cela. De sorte que moi, je n'ai pas porté de jugement, mais je dis, examinons la parole et ne soyons pas trop étonnés de l'état de la chrétienté aujourd'hui. Verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Voyez-vous faire des serments. Les gens qui font tout le temps des serments et qui prennent tout le temps Dieu à témoin, c'est des gens qui n'ont pas Dieu. Parce qu'ils le prennent à témoin à certains moments. Mais quand on vit avec Dieu, on n'a pas besoin de faire des serments. Il est là. On n'a pas besoin de dire « je vous le dis devant Dieu ». On n'a pas à parler autrement que devant Dieu. On est conscient qu'il entend toutes nos paroles, et qu'un jour nous devrons répondre de toutes nos paroles. Mais voyez, on est à côté de l'enseignement biblique. Parce que on dit des serments. Oh, je peux le croire, il a prêté serment. Vous n'avez pas besoin de son serment. Les gens qui mettent toujours Dieu en avant comme ça, à certains moments, c'est qu'ils ne sont pas vraiment avec le Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni par qui, parce qu'il est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Est-ce que c'est vrai? On peut aller chez le coiffeur, évidemment, pour se faire teindre. Bien sûr qu'on peut faire tout. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient de qui? Du malin. Alors on est avec le malin? Oh mes amis, il faut reprendre tout cela. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mais c'est toujours la vie de Jésus que nous allons voir spécialement cet après-midi, qui va nous enseigner ce que nous devons faire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, et c'est tellement beau, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Prétendre qu'il est notre Père et agir d'une autre façon. Car il fait lever, regardez l'exemple qu'il nous donne, son soleil sur les méchants et sur les bons. Non, il fait lever seulement sur les bons. Puis il met une ombre vraiment sur les méchants. Non, il le fait lever. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Et le verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Puis nous continuons rapidement. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. C'est pas d'être vu par les hommes. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est parce que j'ai un Père dans les cieux, parce que je connais la pensée du Père, que j'ai à agir d'une certaine manière. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous dis en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Mais est-ce que nous sommes assez en communion avec ce Père pour savoir que c'est vrai? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien voilà ce qui peut se faire dans bien des demeures. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous prenez une parole que le Seigneur vous a dite, puis vous allez au Père avec cette parole. Voilà ce que tu as dit au Dieu. Hein? Et puis, vous attendez. Vous lui rappelez ce qu'il a dit, comme Moïse le faisait. Il y va de ta gloire, Seigneur. Tu as dit cela, donne-moi la délivrance. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait que vous avez besoin, ainsi que vous le lui demandez. Voici donc comment vous devez prier, puis alors vous avez le Pater. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait une redite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le ciel, dans le lieu secret, à ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, en bon état, tout le corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est une impossibilité. Il faut faire son choix. Alors, ensuite, ne pas s'inquiéter. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ce matin, est-ce que nous avons une inquiétude de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que? Regardez les oiseaux du ciel. Est-ce que la nature vous enseigne? Est-ce que les animaux vous enseignent? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment ils croissent, comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, et demain, qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il resterait le chapitre 7, mais je le laisse à votre méditation. L'heure est venue. Et maintenant, vous allez dans vos chambres. Je ne vais pas vous demander comment se sont passés vos ateliers, parce que je suis responsable d'une des lacunes que vous avez pu constater, c'est qu'au lieu de lire tout le serment sur la montagne sans m'arrêter, comme je l'ai fait dans le chapitre 5 et 6, presque involontairement, bien, si j'avais obéi absolument à ce que le Seigneur m'avait dit, c'était de vous lire, puis c'est tout, sans commenter. Alors on aurait pu les lire entièrement. Et tout à l'heure, dans ma chambre, j'ai pensé à cela, je me suis humilié devant le Seigneur. Et il m'a montré que nous devions lire maintenant le chapitre 7. Alors, c'est très frappant parce que Josaphat est venu me dire que, justement, dans leur atelier, mais moi je ne savais pas ce qui se passait dans vos ateliers, qu'il manquait le chapitre 7. Mais je le savais aussi. Alors, nous allons réparer la faute. Dieu notre Père, nous voulons t'écouter encore, toi-même, et recevoir cet enseignement dans nos cœurs. Et nous te remercions même pour nos lacunes, parce qu'elles nous montrent ce que nous sommes et que nous avons tellement besoin de toi pour obéir à toute ta parole. Que ta grâce soit sur nous et que ton esprit nous inspire. En Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Alors nous lisons le chapitre 7. Vous l'avez tous maintenant devant les yeux. Et je suis content qu'au fond vous ayez remarqué ce qui manque, puisque c'était le sermon sur la montagne. Nous avions fini au verset 33 et 34, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Puis, nous avons donc ce chapitre 7, où nous trouvons d'abord un blâme au sujet des critiques injustes. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Je crois que je suis en train de dire dans la colombe. Et vous suivez dans la seconde. Verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se détournent et ne vous déchirent. Puis, à partir du verset 7 à 11, un encouragement à la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque, c'est chacun, hein, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux et qui les lui demandent? Puis, vous avez au verset 12 la fameuse règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent sur vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout est contenu dans cette parole. Puis, vous avez les deux chemins dans les versets 13 à 14. Le chemin étroit et le chemin large, la porte étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Puis, au verset 15, un enseignement au sujet des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, donc ils sont déguisés. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et évidemment, on pense là aux fruits de l'esprit dont nous parle l'Épître aux Galates, au chapitre 5, hein, au verset 22e. Le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, l'ensemble au fond de toutes les grâces. À partir du verset 21, vous avez une description de la fausse profession religieuse. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur » n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On a mis le nom de Jésus à toutes les sauces et on l'emploie pour rassembler peut-être autour de soi des personnes. Mais ce n'est pas ça le salut. Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Est-ce que c'est des gens qui ont perdu leur salut? Non, ils ne l'ont jamais eu, réellement. Ils ont fait profession de se convertir, peut-être dans une réunion où on a fait un appel, où on a parlé aux sentiments, où il y avait toute une atmosphère qu'on a créée au fond soi-même, parce qu'on voulait attirer les gens, parce qu'on veut qu'ils soient sauvés, soi-disant. Mais les premiers responsables qui paraîtront devant Dieu, ce sont les prédicateurs. La manière dont nous avons prêché l'Évangile. Et s'il y a tant de gens qui sont à côté de la vérité, eh bien il y a une grande responsabilité pour ceux qui ont prêché la parole et qui se sont éloignés vraiment des méthodes du Seigneur. Parce qu'ils ont imité ce qui se fait dans le monde. Tiens, ça réussit dans le monde, nous allons faire la même chose. Et on a introduit dans les églises les principes du monde, alors que notre inspiration devrait être entièrement ailleurs, dans la communion avec le Père. Si nous nous étions tenus davantage à ses pieds, comme nous l'avons vu hier, dans le Deutéronome, et pour ceux qui n'étaient pas là, je vous cite encore, mais vous l'avez dans la petite feuille, à la page 2. Oui, il aime les peuples, au chapitre 33 du Deutéronome. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds et ils ont reçu tes paroles. Si l'on s'était tenu à ses pieds, il y a bien des choses que nous n'aurions pas faites, même pour le Seigneur, parce que lui n'était pas dans cet affaire. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Donc le sermon sur la montagne, c'est vraiment la doctrine du Seigneur. Mais est-ce qu'il vivait ce qu'il disait? Voilà la grande question. Car il enseignait comme ayant autorité. Vous savez, j'ai été frappé, j'étais en France récemment, et j'entendais dans plusieurs endroits des pasteurs qui parlaient toujours de l'autorité. Il faut qu'on reconnaisse notre autorité. Qu'est-ce qui peut faire reconnaître l'autorité de quelqu'un? C'est sa vie, en premier lieu. C'est qu'il soit conséquent. On n'a pas besoin de défendre notre autorité si l'on vit les choses que l'Écriture nous enseigne. Et on n'a pas à imposer l'autorité. Car vous le voyez bien, au verset 28, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Pour quelle raison? Ben, les scribes, ils disent et ne font pas. Voilà ce que Jésus disait dans le chapitre 23 de cet évangile de Matthieu. Alors voilà, nous avons lu ce sermon sur la montagne. Et il y a quelque chose que je n'ai pas souligné cette fois-ci, c'est que quand vous êtes dans vos chambres et que vous faites votre lecture comme vous allez la faire cet après-midi, parce que vous irez directement dans vos chambres, et la lecture que nous vous proposons pour cet après-midi, c'est en particulier le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Alors, j'espère que vous le lirez vous-même. Vous pouvez le lire à haute voix, car comme nous le disons souvent, ça entre par nos oreilles et par nos yeux, et ça descend dans notre cœur. Alors là, cet après-midi, vous aurez vraiment la vision de ce qui caractérise le véritable amour. Car s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. On peut avoir toutes les manifestations religieuses, et aux yeux de Dieu, c'est rien. C'est quelque chose. Il n'y a rien. Alors, c'est pourquoi c'est absolument nécessaire de sonder les Écritures pour que nous ne vivions pas dans l'illusion. Et puis, que nous reconnaissions que être sauvé, c'est pas avoir juste compris une doctrine, mais c'est avoir reçu quelqu'un qui devient en nous la doctrine que nous professons. Et cette personne, quand elle occupe toute la place, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Toute la plénitude de qui? De Dieu. La plénitude était en Jésus. Toute la plénitude de la divinité, c'est plus à habiter en Christ. Et alors, si nous recevons Christ, c'est pas que nous recevons sa doctrine, ce n'est pas le salut niaka, il n'y a qu'à croire, on croit, puis c'est tout. Puis on dit, il y a X années que j'ai cru, mais est-ce que vous croyez aujourd'hui? Est-ce que votre foi est en activité aujourd'hui, dans tous les domaines? Est-ce que vous savez discerner les deux chemins, le chemin large et spacieux, ou le chemin étroit, où nous marchons dans les traces de Jésus? Alors évidemment, la vie est complètement transformée. Il n'est pas question, chers amis, que nous ayons dans notre vie beaucoup de conversions que nous nous attribuerions. Il est question que Dieu sauve des âmes. Et quand il sauve des âmes, qu'est-ce qu'il produit dans ces âmes? Vous l'avez lu. Qu'est-ce qu'il produit? Du fruit. Et c'est clair, il produit du fruit. Et ce fruit, j'insiste sur ce fait, c'est l'ensemble de toutes les grâces qui donnent aux croyants une personnalité attrayante dans laquelle le monde reconnaît quelque chose de Christ. La vie d'un croyant, elle doit faire penser à la vie du Christ. Et nous n'avons pas besoin d'employer des subterfuges. C'est pas une ressemblance charnelle, c'est une ressemblance spirituelle. Je lis le verset dans Galates. Vous le connaissez par cœur, je pense. 5, 22. Il y a d'abord les œuvres de la chair au verset 19. Hein. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie, et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques, qu'est-ce qui leur arrivera? Ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Eh bien, que le Seigneur bénisse cette parole, que vous puissiez repasser ce sermon sur la montagne qui nous révèle l'enseignement de Jésus, qu'il a vécu à la gloire de son Père, à un tel point que le Père pouvait dire « C'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Vous n'aurez pas entendu ici la parole d'un homme, mais vous aurez entendu la parole du Seigneur. Alors, quand même, quelques mots au sujet de vos ateliers.